Allez, tout de suite, je me retourne vers l'invité du jour, un invité ou plutôt un chroniqueur habituel, puisque c'est Michel Favré. Bonjour Michel.
Bonjour Sandrine.
Alors, comme chaque mois, on vous reçoit pour la chronique, donc la numéro 54. On va reparler, je le sais, représenter un petit peu votre association, hein, puisque vous êtes animateur de Constellations et Galaxies. Vous venez de Dordogne. Je le sais que vous êtes habitué à le faire, mais on le refait comme au cas où il y a des nouveaux auditeurs à chaque fois qui arrivent le mercredi. Voilà.
J'espère bien qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc, Constellations et Galaxies est une petite association, hein, par le nombre de membres, et basée en Dordogne, près de Mussidan, hein, Saint-Médard-de-Mussidan, pour être précis. Et son activité est dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique, et en particulier avec un planétarium itinérant qui permet d'aller, alors en période scolaire, c'est surtout dans des écoles, des collèges, des lycées, expliquer le ciel aux enfants, les constellations, ce que sont les étoiles, les planètes, etc. D'ailleurs, si des enseignants sont actuellement en vacances et ont la possibilité de nous entendre, il ne sera pas trop tard, tout de suite à la rentrée là, de lundi, de nous contacter encore pour des animations sur le dernier trimestre de l'année. C'est souvent qu'on a pas mal de demandes en fin d'année, puisque c'est considéré comme une activité un petit peu ludique de fin d'année pour les enfants.
Puis, oh, peut-être qu'on voit un petit peu mieux les étoiles aussi à cette période ?
Oui et non. C'est-à-dire que pour voir les étoiles, le critère principal, c'est la météo et la pollution lumineuse. Donc quand on est dans l'agglomération bordelaise, c'est pas génial. Mais depuis le changement d'heure, d'ailleurs j'en parlerai dans la dernière partie de la chronique en parlant un petit peu du ciel du mois, il faut attendre de plus en plus tard pour voir le ciel noir. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est plus facile de voir les étoiles en hiver, à 6h30, 7h le soir, il fait nuit, alors qu'actuellement, c'est 22h. À la fin du mois de mai, ce sera 23. Et cet été, c'est plutôt vers 11h30 qu'on pourra commencer à voir un ciel noir.
Alors, vous vous déplacez dans toute l'Aquitaine ? Le planétarium, oui. Si le message est passé, on va aller
jusqu'au
bout.
Toute la Grande Aquitaine, ça fait beaucoup quand même. Donc, on est basé en Dordogne et on intervient sur aussi les départements limitrophes. Hein, donc aussi bien Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Lot-et-Garonne et Gironde, mais pas entièrement sur tous ces départements, dans une zone habituellement qu'on limite à 1h30 de route à partir de Mussidan. Disons, de temps en temps, on a des demandes particulières, surtout en été, de centres de loisirs, et là, on examine la possibilité d'aller plus loin, ce qui coûte plus cher en frais de déplacement. Oui. Mais il faut bien imaginer qu'avec 1h30 de route, si je pars intervenir pour une journée, je vais faire 1h30 le matin, 1h30 le soir, ça fait 3h, 5 ou 6 heures d'animation, plus le montage et le démontage du planétarium, ça fait quand même une très, très grosse journée. Bien c'est sûr. Un petit peu pour ça qu'il y a cette limite. D'accord. En gros, on va de Angoulême à Villeneuve-sur-Lot, dans le sens nord-sud, et en gros de la région bordelaise jusqu'à Brive, dans le sens est-ouest.
Vous venez pour des événements aussi, hein, puisqu'on vous a vu plusieurs fois à Planète, au festival Planète qu'on a organisé.
Voilà, ça peut arriver que pour des fêtes, on nous fasse intervenir, effectivement.
C'est bien de passer le message, hein, parce que tout le monde ne connaît pas encore cette association Constellations et Galaxies. Effectivement, on n'y pense pas forcément à faire venir un planétarium, on ne sait des fois même pas que ça existe. Donc c'est bien de le rappeler une fois par mois.
Et on ne sait parfois pas à quoi ça sert non plus, parce qu'il n'est pas rare qu'on ait des interlocuteurs qui s'inquiètent de la météo, comme si on voulait faire de l'observation astronomique dehors, alors que le planétarium, il se monte en salle, c'est pas possible de l'installer en extérieur, il se monte en salle et il peut montrer le ciel à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, on verra les étoiles, puisque c'est un projecteur qui projette le ciel.
Bon, c'est bien de rajouter. Alors, cette chronique astro du numéro 54 de ce jour, alors c'est du côté des sondes spatiales, des réussites et des ratés.
Voilà, un petit point de l'actualité astronautique, si je peux dire. La réussite est pour les Japonais de l'agence spatiale JAXA et leur sonde Hayabusa 2, partie en 2014, rejoint le petit astéroïde Ryugu, d'environ 1 km de diamètre, qu'elle a atteint en juillet dernier. Depuis lors, j'en avais reparlé à plusieurs occasions, notamment la dépose en douceur de l'atterrisseur européen Mascot en octobre dernier, et la dernière fois en février, car elle semblait avoir réussi une collecte d'échantillons de ce corps, en le faisant percuter par un petit impacteur et en récupérant les particules éjectées avec une sorte de trombe de 70 cm de long, lors d'un survol très rapproché de l'astéroïde, très difficile à programmer depuis la Terre, car la surface de Ryugu est parsemée de rochers, beaucoup plus que ce qu'on avait prévu pour un corps si petit, donc à très faible gravité. Cette mission a enregistré un nouveau succès le 5 avril avec une autre expérience consistant à lancer depuis une distance d'environ 500 mètres le dispositif SCI pour Small Carry-On Impactor d'une dizaine de kilos en direction de la surface, ce système étant constitué d'une charge dont l'explosion dans l'espace a envoyé un petit bolide de 2 kilos à plus de 7000 km/h percuter la surface de Ryugu. Le but de l'opération était de filmer la formation artificielle d'un cratère comme il peut s'en produire lors d'un choc avec un petit bloc errant dans l'espace, afin de comparer avec les tailles des cratères qui sont utilisées pour dater les surfaces des corps du système solaire. Plus une surface est ancienne, plus elle est exposée longtemps et plus elle porte de cratères. Et plus il y a de gros cratères, rares car produits par des chocs avec des plus gros bolides, plus cette ancienneté est confirmée. Il est donc important d'avoir une bonne relation entre la violence du choc et la taille du cratère produit pour préciser ces datations. Le déroulement de l'expérience était filmé par une caméra, elle aussi larguée dans l'espace depuis après le SCI, afin de permettre à la sonde Hayabusa 2 de se trouver à une bonne distance de sécurité pour ne pas risquer d'être endommagée. Elle devait revenir photographier le nouveau cratère une fois que plus aucun débris ne flotterait dans l'espace. La sonde doit être préservée de tout dégât, car elle doit ramener sur Terre les échantillons récoltés en février, probablement vers décembre 2020.
Alors là, on est sur plutôt la réussite, mais du coup, les ratés.
Alors, le raté du mois, c'est le crash de la sonde israélienne. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, un Bereshit ou Bereshit, si on le fait à l'anglais, puisqu'il y a
je
deux.
Je ne peux pas savoir.
Ça doit vouloir dire Genèse en hébreu. Donc le crash de cette sonde sur la surface lunaire le 11 avril, suite à l'arrêt brutal du moteur freinant sa descente, une panne pour le moment inexpliquée. Cet engin de 180 kg avait été développé par la société SpaceIL dans le cadre du concours Google Lunar XPRIZE, lancé en 2007 par la société informatique, et doté d'un prix de 20 millions de dollars pour le concurrent qui arriverait à poser un engin sur le sol lunaire et le faire se déplacer d'au moins 500 mètres avant mars 2018. De 36 candidats au départ, il n'en restait plus que 6 en compétition en 2018, quand le concours a été annulé puisqu'aucun n'avait atteint l'objectif dans le délai prévu. SpaceIL a été le seul à poursuivre le projet jusqu'au bout, en lançant sa sonde le 21 février dernier avec une fusée Falcon 9 de la société privée SpaceX. Comme quoi, il n'y a pas que des réussites avec ce crash dans ce qu'on appelle le New Space. C'est cette nouvelle ère de la conquête spatiale qui semble s'ouvrir avec l'arrivée massive de sociétés privées dans le domaine, comme nous l'avons souvent évoqué ici. Mais puisqu'on vient de parler de SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, on doit mettre à son crédit un succès assez spectaculaire avec le lancement réussi de son lanceur lourd Falcon Heavy le 12 avril depuis le pas de tir 39A du centre spatial Kennedy en Floride. On peut y voir peut-être un symbole de l'avènement de ce fameux New Age, où les New Space, où les sociétés privées supplantent les agences spatiales nationales comme la NASA, car c'est de là exactement que décollait exactement 38 ans plus tôt, le 12 avril 1981, la première navette spatiale américaine Columbia, et 58 ans exactement après le lancement du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, depuis le site russe de Baïkonour. Ce lancement du Falcon Heavy a donné lieu à des images spectaculaires, puisque 7 minutes après, les deux boosters latéraux venaient se reposer en douceur et en sobe sur leur piste d'atterrissage, alors que le corps central plus lourd revenait se poser sur une plateforme flottante sur l'océan Atlantique. Ce concept de réutilisation d'une grosse partie du lanceur est à la base du système SpaceX, permettant d'abaisser les coûts de lancement. C'était le deuxième tir de cette version lourde du Falcon, après un premier essai en février 2018, qui avait connu un gros succès médiatique en lançant dans l'espace un coupé Tesla, autre société d'Elon Musk. Cette fois, c'était un tir commercial ayant permis la mise en orbite du satellite saoudien Arabsat 6A d'environ 6,5 tonnes, premier lancé de la sixième génération de cette flotte destinée aux télécommunications. Le prochain tir est programmé en juin avec à bord des satellites militaires de l'US Air Force, pour nous rappeler qu'il existe aussi un volet militaire de l'astronautique, même si on en parle moins dans les médias. Le Falcon Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais conçues, la deuxième américaine derrière la Saturn V du programme Apollo, ce qui la destine notamment au tir de satellites lourds où elle concurrence directement et dépasse même les capacités de l'européenne Ariane 5 et de la future Ariane 6. Pour les projets d'exploration du système solaire, SpaceX ne retient pas ce lanceur pour d'éventuelles missions martiennes habitées, comme annoncé initialement, car elles nécessiteront un lanceur encore plus puissant. Mais ces capacités pourraient être utilisées pour des missions robotisées vers Mars ou les planètes extérieures comme Jupiter ou Saturne dans le cadre du programme Discovery de la NASA.
Et il y a la fameuse image du trou noir.
Oui, alors avec tout le retentissement médiatique autour de cette première, il aurait été difficile de ne pas parler de cette image publiée en fanfare le 10 avril. À noter qu'il faut bien dire image et non pas photo, car c'est une image de synthèse en fausse couleur produite à partir de données provenant de radiotélescopes. Donc dans des longueurs d'onde totalement invisibles à nos yeux pour des capteurs de caméra utilisés en astronomie dite optique. Avant de commenter ce résultat, il faut rappeler qu'il est le fruit d'une longue opération internationale baptisée Event Horizon Telescope. c'est-à-dire télescope de l'horizon des événements. Ce nom peut paraître bizarre, mais si on veut être strict, l'image n'est pas celle d'un trou noir, mais de son horizon des événements, c'est-à-dire de la frontière à partir de laquelle plus rien ne peut s'échapper à l'attraction du trou noir, même pas la lumière, d'où son aspect totalement noir et opaque. J'expliquerai cette nuance dans la deuxième partie de la chronique. Cet objet dont on voulait faire une image est très petit vu de la Terre, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre des cibles qui avaient été choisies pour cette expérience. D'une part, le trou noir supermassif situé au centre de notre Voie lactée, baptisé Sagittarius A, d'un diamètre estimé environ 14 à 15 fois le diamètre du Soleil, mais situé très loin de nous, environ 30 000 années-lumière. Et l'autre, celui dont on a publié l'image, situé au centre de la galaxie M87, dans l'amas de la Vierge, est beaucoup plus gros, à peu près comme deux fois tout le système solaire jusqu'à Neptune, mais aussi beaucoup plus loin, à environ 55 millions d'années-lumière. À titre de comparaison, ce serait comme vouloir photographier de Bordeaux un grain de poivre situé sur la côte américaine de l'autre côté de l'océan Atlantique. En optique, il y a une loi très simple qui dit que plus on veut obtenir une image d'un petit objet ou d'un petit détail, ce qui se nomme le pouvoir de résolution, il faut utiliser un instrument de gros diamètre. C'est pour cela que les meilleurs des smartphones, avec un super capteur affichant des millions de pixels, ne savent faire que des images pas très nettes quand on les observe de près, à cause de leur objectif de quelques millimètres, qui ne pourra jamais rivaliser avec un vrai objectif d'appareil photo pour produire une bonne image bien piquée, comme on dit. Pour le projet d'image du trou noir, aucun télescope ou radiotélescope n'est en capacité de réaliser seul la prise de vue, car il faut un instrument de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Heureusement, il existe une technique appelée interférométrie qui permet d'obtenir le résultat en combinant les images produites par plusieurs instruments, mais avec une synchronisation parfaite, pour obtenir un résultat équivalent en résolution à un télescope aussi grand que la distance séparant les télescopes utilisés. C'est pourquoi le Event Horizon Telescope a utilisé 8 radiotélescopes situés à des points très dispersés sur Terre, comme le Chili, le Mexique, l'Espagne, Hawaï ou l'Antarctique. C'était l'équivalent d'un télescope d'environ 12 000 km de diamètre. Les données ont été enregistrées entre le 4 et le 10 avril 2017, et on pensait que l'image pourrait être révélée dès l'automne 2017. Mais il aura fallu presque 2 ans pour les combiner, étant donné leur volume énorme. Pour l'illustrer, on peut dire qu'elles ont été regroupées sur des disques durs, car les capacités d'Internet n'étaient pas suffisantes pour les transférer dans un délai raisonnable, et quand tous les disques ont été réunis, cela représentait un volume de 6 mètres cubes. Il a fallu compter aussi avec la durée et la complexité des traitements visant à supprimer toutes les formes de parasites, l'objet visé étant à la limite des possibilités techniques du dispositif. La production de l'image a donc été confiée à 4 équipes indépendantes qui ont appliqué chacune leurs méthodes et algorithmes pour vérifier que les 4 images obtenues étaient assez semblables pour représenter réellement l'objet visé et non pas des résultats aberrants sans signification. Au final, c'est l'image du trou noir de M87 qui a été publiée car elle était de meilleure qualité. Pour faire simple, on peut dire qu'on a essayé de photographier en pose lente et que celui de la Voie lactée, beaucoup plus petit, bouge plus vite que celui de M87, d'où une image moins bonne.
Et que voit-on donc au final sur cette image montrée sur tous les médias et qui ressemble un peu à un donut, un beignet américain percé d'un trou en son centre ?
Alors comme je l'ai dit, on espérait voir l'horizon des événements du trou noir, donc une boule parfaitement noire et opaque, puisqu'aucune lumière ne peut la traverser ni se réfléchir sur elle. Les auditeurs comprendront bien que c'est impossible à distinguer sur le fond noir du vide spatial. Il ne peut être vu que par contraste avec un fond lumineux. Et c'est là que les trous noirs supermassifs nous rendent service, car sans être des sortes d'aspirateurs prêts à avaler toute la galaxie qui les renferme, comme on le décrit parfois, ils ont tendance à attirer à eux du gaz ou même des étoiles qu'ils déchirent si ceux-ci s'approchent trop près de lui, ce qui arrive continuellement avec la forte densité de matière qui règne au centre des galaxies. En tombant de plus en plus vite vers le trou noir, le gaz s'échauffe et donc il émet de la lumière dans des ondes longues, environ 1 mm, d'où l'utilisation des radiotélescopes pour la capter. Comme le trou noir est lui-même en rotation, il entraîne le gaz dans son mouvement, formant comme une grande spirale en tombant vers lui. Et la partie la plus chaude se voit comme une sorte d'anneau, c'est le donut visible sur la photo, sur lequel se détache par contraste la boule noire de l'horizon des événements. Donc un trou plus ou moins rond selon la perspective au centre du donut et les déformations de l'image produite par le trou noir lui-même. On peut remarquer qu'une portion est plus lumineuse et une autre moins, car la rotation rapide du gaz provoque par effet Doppler des décalages de la longueur d'onde de la lumière émise selon que le mouvement se fait en s'approchant ou en s'éloignant de nous, exactement comme une sirène paraît plus aiguë ou plus grave selon qu'une ambulance vient vers nous ou s'éloigne. Avec les données recueillies, les astronomes ont pu déterminer que le trou noir et le gaz tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde l'image. Pour conclure sur cette image, je dirais que personnellement, elle me fait un effet mitigé. Car c'est sans nul doute une réussite historique, puisque c'est la première observation directe d'un trou noir, et que le résultat est très convaincant, puisque très semblable aux simulations numériques qui avaient pu être faites auparavant, et même à un dessin de l'astrophysicien Jean-Claude Luminet, tracé dès 1979, il y a 40 ans. Mais d'un autre côté, c'est cette grande ressemblance qui est un peu décevante, car il n'y a pas réellement de surprise. Or, en science, on progresse surtout quand les mesures et les observations ne sont pas exactement comme on les attendait.
Alors, les trous noirs, maintenant.
Voilà, c'est le thème que je vais développer un peu, parce que je me suis rendu compte, avec cette image historique, en recherchant dans les archives des chroniques, que je n'avais jamais traité ce sujet complètement.
C'est intriguant.
Même s'il a été abordé dans le cadre d'autres thèmes, comme j'avais parlé de l'évolution des étoiles en juin 2016, ou l'évocation du côté sombre de l'univers en janvier 2017. Et à l'occasion, j'avais parlé des trous noirs, mais pas aussi complètement. Alors pour commencer, les trous noirs sont d'abord une grande réussite théorique, car on les a imaginés à partir d'équations avant de pouvoir vérifier leur existence réelle. Le concept de trou noir actuellement utilisé en physique provient de la relativité générale d'Einstein, et la preuve directe de leur existence donnée par l'image du 10 avril est une nouvelle réussite éclatante de cette théorie, après la première détection d'ondes gravitationnelles en 2015, elle aussi prédite par cette théorie vieille quand même d'un siècle. Au départ, le trou noir est un concept purement théorique provenant de nos modèles mathématiques de la gravitation. Cette interaction qui fait que les corps massifs s'attirent les uns les autres. Par exemple, que la fameuse pomme de Newton tombe sur le sol, la Lune orbite autour de la Terre, les planètes autour du Soleil et les étoiles restent regroupées au sein des galaxies. Dès la première théorie de la gravitation universelle, formulée par Isaac Newton en 1684, des astronomes, comme le français Pierre-Simon de Laplace, imaginent le trou noir. Comme la force produite par la gravité est d'autant plus grande que les masses sont grandes et que la distance entre les objets est petite, un objet très dense peut exercer une attraction si forte que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. D'où le nom de trou noir. Pour donner une image simple à nos auditeurs, si je lance une balle, elle retombe sur le sol. Mais plus je la lance fort, c'est-à-dire vite, plus elle retombe loin de moi. On pourrait imaginer qu'en la lançant à une vitesse assez grande, par exemple avec un gros canon, elle serait propulsée tellement loin que sa trajectoire de chute frôlerait la surface terrestre sans jamais la rencontrer. La balle se retrouvant ainsi satellisée autour de la Terre comme l'est la Lune. Et avec une vitesse encore plus grande, on pourrait voir la balle s'éloigner de la Terre sans jamais y revenir. Cette vitesse à atteindre pour s'échapper à l'attraction d'un corps est appelée vitesse de libération. Pour la Terre, c'est dans les 40 000 km/h. Mais les équations de Newton montrent que cette vitesse est d'autant plus grande que la masse du corps acquitté est importante et que son diamètre est petit, car on est alors plus près de son centre de gravité. Imaginons qu'on puisse compresser la Terre dans un diamètre 4 fois plus petit. La vitesse de libération pour la quitter doublerait. Et si on compresse encore et encore jusqu'à renfermer toute sa masse dans environ le volume d'une noix, la vitesse de libération serait aussi grande que la vitesse de la lumière. Et plus rien ne pourrait s'échapper de cette minuscule Terre. Pas même la lumière. Donc cette petite boule serait totalement noire, absorbant la lumière sans pouvoir la réfléchir. C'est un peu le concept du trou noir imaginé au XVIIIe siècle par Laplace à partir de la gravitation universelle de Newton. Au début du XXe siècle, la relativité d'Einstein révolutionne notre façon de voir la gravité, car selon ses équations, elle résulterait en fait d'une déformation de l'espace-temps provoquée par les masses qu'il contient. Pour l'expliquer, on prend souvent un modèle simplifié en deux dimensions, alors que les équations le décrivent bien sûr en 3D. On y représente l'espace-temps comme une toile tendue, donc plane, mais dès qu'on y pose des masses, par exemple des boules plus ou moins lourdes, la toile se creuse et un objet passant à proximité se trouve dévié, comme attiré par la boule. Et cela s'applique aussi à la lumière qui n'a pas de masse et à laquelle ne peut pas s'appliquer la théorie de Newton. On a vérifié la justesse de ce modèle dès 1919, en mesurant lors d'une éclipse que la lumière provenant d'étoiles était déviée en passant près du Soleil. On comprend facilement que plus une boule est dense, par exemple une boule de pétanque par rapport à un ballon de foot, plus elle creuse un trou profond dans la toile et dévie donc fortement la trajectoire de tout ce qui se passe à proximité. Et la petite Terre réduite à la taille d'une noix de tout à l'heure creuserait comme un trou sans fond, une déformation extrême de l'espace-temps, le trou noir. Cette représentation simplifiée en 2D permet aussi d'ailleurs de comprendre le concept d'horizon des événements.
Alors, excusez-moi Michel, mais il y a quelque chose que je n'ai pas très bien saisi. Qu'est-ce que c'est cet horizon des événements dont vous avez parlé à plusieurs reprises ?
Alors, c'est finalement assez simple à comprendre. Au lieu d'une toile, prenons la surface d'une rivière tranquille qui accélère progressivement puis se courbe en tombant dans une cascade abrupte qui représenterait le trou noir. Et si on laisse des nageurs se déplacer sur cette rivière, on imagine bien que tant qu'ils se tiennent à bonne distance de la chute, ils ne risquent rien. Contrairement à ce qu'on dit, un trou noir n'absorbe pas tout ce qui est autour de lui comme un aspirateur. Et si on s'en tient assez éloigné, on ne risque rien. Par exemple, si le Soleil était changé d'un coup de baguette magique en un trou noir de même masse, ce qui nécessiterait de le comprimer dans une sphère de 2 km de diamètre, je crois, les planètes continueraient à orbiter tranquillement autour de lui comme si de rien n'était, car il exercerait toujours exactement la même attraction sur elles. Mais revenons à nos nageurs. Il est facile de comprendre que selon leur vitesse de nage, ils peuvent s'approcher plus ou moins près de la cascade, mais qu'il existe pour chacun une limite invisible à ne pas franchir, au-delà de laquelle le courant est si rapide, donc si on peut dire l'attraction si forte, qu'il ne peut plus le remonter, même en nageant de toutes ses forces. Et il glisse inexorablement vers la cascade où il finira par chuter. Et même le champion des champions, le nageur lumière, si je peux l'appeler comme ça, a une telle limite qu'à personne ne peut nager assez vite pour remonter la chute d'eau une fois qu'il a été entraîné. Cette limite invisible que même le nageur lumière ne doit pas franchir, c'est l'horizon des événements. Donc, pour un trou noir, la distance à laquelle plus rien, même pas la lumière, ne peut s'échapper à son attraction. Ce nom « horizon des événements » est un peu curieux, mais il signifie que c'est une barrière infranchissable ne permettant pas de connaître ce qui se passe à l'intérieur de cette sphère, puisqu'aucune information ne peut en sortir. On ne sait donc rien du trou noir situé à l'intérieur, et c'est même pire que ça, car comme nos théories physiques ne peuvent pas s'appliquer à une courbure aussi forte de l'espace-temps, ni d'ailleurs une densité de masse aussi forte, on n'a aucune idée de l'état, ainsi j'osais, je dirais même de la substance, d'un trou noir, ses caractéristiques échappant à tous les états connus de la matière.
C'est intriguant, mais comme vous l'avez dit donc au début, tout ceci est donc purement théorique. Alors est-ce qu'on est vraiment sûr que ces trous noirs existent réellement ?
Alors c'est une question très légitime, car Einstein lui-même doutait qu'un objet aussi bizarre puisse exister réellement dans le cosmos. Aujourd'hui, des observations montrent qu'il se trompait, mais il est toujours très difficile de mettre en évidence la présence d'un trou noir puisqu'il n'émet aucun rayonnement. On a quand même imaginé un mécanisme qui permettrait de fabriquer des objets tellement denses qu'ils seraient des trous noirs. Dans le cycle d'évolution des étoiles, de leur formation à partir d'une nébuleuse de gaz, puis leur fonctionnement nucléaire pendant des millions ou des milliards d'années, comme le Soleil en ce moment, et leur fin pour laquelle il y a différents scénarios selon leur masse. Une relativement petite étoile comme notre Soleil termine sa vie en gonflant lentement pour se transformer en une géante rouge, puis une nébuleuse dite planétaire en raison de sa forme globalement sphérique. Pour fixer les échelles, parce que j'aime bien essayer de ramener les choses à des échelles sensibles, parce qu'on parle toujours de distance et de masse énorme.
Oui, bien sûr.
J'ai imaginé qu'on pourrait ramener la masse représenter la masse de la Terre par un morceau de sucre, qui fait à peu près 6 grammes. Les auditeurs pourront vérifier. La masse du Soleil représenterait environ 2 tonnes de sucre, pour donner l'échelle. Donc 2000 paquets de 1 kg, de quoi remplir un petit fourgon. Pour les étoiles beaucoup plus grosses, de l'ordre de 10 masses solaires, donc l'équivalent d'un semi-remorque de sucre, dans notre image de la Terre, ramené à un morceau de sucre, la fin est beaucoup plus spectaculaire car elles explosent en supernova, dispersant la plus grande partie de son gaz dans l'espace, mais implosant son cœur dans un objet extrêmement dense. Une étoile à neutrons, forme extrême de la matière, avec la masse de 1,5 à 3 fois celle du Soleil, comprimée dans une sphère d'environ 20 à 40 km de diamètre seulement. Un sucre, je vais rester sur cette image, prélevé dans une étoile à neutrons, pèserait des centaines de milliards de tonnes, pour donner une idée de la densité. Mais si l'étoile explosant en supernova est encore plus massive, dans les 20 masses solaires, la compression du cœur sera encore plus forte, dépassant les limites de résistance des neutrons eux-mêmes, et la densité deviendra tellement forte que cela donnerait naissance à un trou noir, qu'on appelle stellaire, car né d'une étoile. Un tel objet serait très difficile à observer, car totalement noir, et d'une taille minuscule, de l'ordre de la dizaine de kilomètres seulement. On ne peut donc pas le détecter d'une manière directe, mais de manière indirecte. Par exemple, s'il attire à lui un nuage de gaz, Par exemple, en vampirisant progressivement une étoile compagnon s'il provient de l'explosion d'une des deux étoiles d'un système binaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'image du 10 avril, en tombant de plus en plus vite, ce gaz chaud fait émettre un rayonnement qui peut être dans le domaine des rayons X quand la température devient très élevée. Or, on observe dans l'espace des sources de tels rayonnements, par exemple Cygnus X1, ça veut dire qu'elle est dans la constellation du Cygne, détectée en 1965 et dont la cause pourrait être un trou noir en rotation avec une étoile géante. On peut même imaginer un phénomène encore plus catastrophique si l'étoile compagnon approche si près qu'elle se trouve déchirée par l'attraction du trou noir qu'il absorbe, ce qui semble avoir été observé en mars 2009 par des astronomes de l'Ohio. Une sorte de supernova ratée qui commence comme une grosse explosion quand l'étoile est détruite et se termine comme un pétard mouillé car le trou noir avale rapidement le nuage de gaz en expansion. La meilleure preuve que nous ayons de l'existence des trous noirs est l'observation pendant une quinzaine d'années des étoiles les plus proches du centre de notre galaxie, la Voie lactée. On les a vues orbiter rapidement autour d'un objet central dont on a pu déterminer la masse à partir des lois de Kepler et des équations de Newton, et c'est dans les 4 millions de masses solaires. Si on revient à notre analogie du morceau de sucre pour la masse de la Terre, d'un fourgon rempli de sucre pour le Soleil, on parlerait maintenant d'une masse de 8 millions de tonnes de sucre, soit en empilant des boîtes de 1 kg, un cube de 200 mètres de côté. Le problème, c'est que selon nos théories actuelles, aucune étoile ne peut être aussi massive et qu'on ne voit strictement rien à cet emplacement. Il s'agirait donc d'un trou noir supermassif, comme il semble en exister au cœur de chaque grande galaxie, d'après ce que montrent d'autres observations indirectes, des émissions intenses de rayonnement X dans leur cœur. Et on dispose maintenant, depuis le 10 avril, d'une preuve directe de leur existence avec l'image du trou noir situé dans la galaxie M87. Celui-là est un véritable monstre, car il ferait dans les 6 milliards de masses solaires. Avec notre image du morceau de sucre pour la Terre, on parle d'un empilage de boîtes de sucre représentant un cube de 2 km de côté. Et on connaît encore de plus gros. Le record est actuellement détenu par celui au cœur de la galaxie NGC 1277, qui ferait dans les 17 milliards de masses solaires, donc encore 3 fois plus grand. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment de tels monstres ont pu se former. Car si on sait que deux trous noirs peuvent fusionner pour en produire un plus gros, il aurait fallu une concentration incroyable de trous noirs, donc d'étoiles très massives au cœur des galaxies, et un temps très long pour former des trous noirs supermassifs de cette façon. On pense plutôt que ces objets ont été formés très tôt dans l'histoire du Big Bang et qu'ils ont pu jouer le rôle de semences autour desquelles se seraient formées les galaxies. Et pour finir, un dernier clin d'œil à la relativité générale d'Einstein, avec la première détection d'une onde gravitationnelle en octobre 2015, car l'analyse du signal reçu montre qu'il provient justement de la fusion, en astrophysique on dit coalescence, de deux trous noirs. La surprise, c'est qu'ils faisaient chacun dans les 30 masses solaires. Or, on pensait jusque-là que ces trous noirs dits intermédiaires, entre les quelques masses solaires des trous noirs stellaires produits par les supernovas et les supermassifs au cœur des galaxies, donc ces trous noirs intermédiaires devaient être très rares. Donc encore plus rare en système binaire formé de deux trous noirs intermédiaires. Et pourtant, la première détection d'ondes gravitationnelles, quelques semaines seulement après l'amélioration du détecteur LIGO, provient justement d'un tel couple. On peut donc supposer que ces trous noirs sont beaucoup moins rares qu'on ne le pensait et qu'il faudrait revoir nos théories à leur sujet. Il reste donc certainement pas mal de choses à découvrir au sujet des trous noirs.
Et ce qui fait toujours objet de recherches?
Bien sûr, c'est ouais. Un des domaines de l'astrophysique. Ce sont des objets vraiment tellement bizarres qu'ils peuvent nous aider. Ils sont à la limite, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, ils sont à la limite des théories physiques actuelles, aussi bien dans le champ de la relativité générale que dans celui de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Donc c'est en essayant d'observer et de mieux comprendre des objets extrêmes comme ceux-là qu'on peut pousser nos théories tellement loin qu'on va peut-être trouver la suite. C'est à chaque fois que les théories physiques sont confrontées à des choses qu'ils n'arrivent pas bien à expliquer ou à décrire, qu'on est obligé de les faire évoluer pour prendre en compte ces nouvelles observations.
Ça a nourri les livres de science-fiction, ce trou noir.
Oui, pas toujours à juste raison, oui. Parce que le côté trou noir aspirateur de tout ce qui est autour de lui, c'est quand même un peu trop fréquent. Oui. Par rapport aux œuvres récentes que j'ai pu voir, en particulier des films. Si on se souvient, dans Interstellar, il est question à un moment donné d'explorateurs avec une espèce d'engin spatial qui s'approche d'un trou noir. Et c'est très très bien fait parce que un effet que j'ai pas décrit là, c'était pas vraiment le sujet, c'est que comme c'est une masse énorme, une gravitation énorme, on sait aujourd'hui, toujours avec la relativité d'Einstein, que quand on est baigné dans un champ de gravitation très intense, le temps s'écoule plus lentement. Et c'était très très bien décrit dans ce film puisque les personnes qui étaient dans la navette, si je peux dire, vieillissaient beaucoup moins vite que des personnes restées sur Terre. Et si certains se souviennent de la fin du film, j'espère que je ne vais pas spoiler pour les autres, à la fin, le père retrouve sa fille qui est beaucoup plus âgée que lui, tout simplement parce que pendant que s'écoulaient des années et des années sur Terre, le temps s'écoulait beaucoup plus lentement sur lui parce qu'il était proche du trou noir. Donc ce sont des objets assez fantastiques et on a du mal à expliquer, à imaginer ce qui se passe aux abords d'un trou noir parce qu'il n'est pas du tout question de rentrer à l'intérieur. En tout cas, pour les scientifiques, après, dans le domaine de la science-fiction, toute l'imagination est possible. D'ailleurs, si je peux citer Albert Einstein, il disait que l'imagination était plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée, mais que par l'imagination, on peut embrasser tout l'univers.
Bien sûr. Mais justement, ça nous intrigue. Et je comprends aussi les scientifiques qu'ils aient envie d'aller chercher un petit peu plus loin dans ce trou noir. Mais pour nous, ça reste...
Près de ce trou noir.
Ouais, près de ce trou noir. Merci Michel donc pour cette chronique astro numéro 54. On va quand même finir avec la carte du ciel du mois.
Oui, alors c'est pas vraiment la carte, mais c'est le ciel du mois.
Le ciel du mois,
donc,
oui.
Comme chaque mois, je propose aux éditeurs d'aller consulter d'abord la rubrique ciel du mois de la section astronomie. Il y a un onglet pour ça dans notre site web. D'ailleurs, dans l'onglet astronomie, on retrouve aussi toutes les chroniques que je mets en ligne en MP3 depuis le début. Car ça leur permet de voir les cartes du ciel, parce que parler de cartes à la radio, c'est quand même un peu difficile, les images sont plus simples. Et avoir plus de détails sur les événements astronomiques de mai que je mettrai à jour donc la semaine prochaine, en début de mois. Depuis le passage à l'heure d'été fin mars, la nuit, comme je le disais tout à l'heure, tombe nettement plus tard. Actuellement, le soleil se couche vers 21h et la nuit noire survient vers 22h. Fin mai, ce sera environ une heure plus tard, avec un coucher vers 21h40 et la nuit vers 23h. Comme nous sommes au cœur du printemps, c'est le ciel typique de la saison qui est visible vers le sud en début de nuit, alors que le ciel de l'hiver disparaît déjà vers l'ouest, avec Orion déjà sur le point de se coucher. Une des constellations typiques de cette période de printemps est celle du Lion, plein sud en début de nuit, reconnaissable aux étoiles de sa crinière et de son poitrail qui forment comme une faucille dans le ciel, ou pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument agricole, un point d'interrogation inversé droite-gauche. Il est suivi par la Vierge en train de se lever. En suivant la courbe de la queue de la Grande Ourse, on trouve une étoile très brillante et jaunâtre, Arcturus, la deuxième étoile la plus brillante du ciel sous nos latitudes, puis un peu plus loin, Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge, dont les principales étoiles forment comme un grand Y en partant de Spica vers le Lion. J'en parle parce que c'est dans cet espace de coupe du Y de la Vierge, derrière la queue du Lion, que se situe une forte concentration de galaxies connue sous le nom d'amas de la Vierge. Il faut un télescope ou une petite lunette astronomique pour les apercevoir, mais je reviens sur elle parce que c'est justement là que se trouve la galaxie M87, au cœur de laquelle est situé le trou noir dont l'image historique a été révélée le 10 avril. D'ailleurs, pour la petite histoire, avec mon club astro, on a regardé il y a une quinzaine de jours M87 pour dire « voilà, c'est là que se trouve le trou noir ». Bien sûr, on ne le voit pas dans nos tests. Comme notre voie lactée est absente du ciel de printemps, c'est une période favorable à l'observation des galaxies puisque notre visée ne peut porter plus loin sans être arrêtée par les étoiles ou les nébuleuses de la voie lactée. Fin mai, le Lion sera déjà vers le sud-ouest en début de nuit et le ciel de l'été, avec la Voie lactée, commencera à apparaître à l'est. Côté planète, c'est Mars qu'on peut apercevoir le soir à l'ouest, bien discrète en luminosité, à peu près comparable aux étoiles brillantes qui dessinent les constellations, mais reconnaissable à sa couleur orangée. Actuellement, elle se couche juste après minuit, mais fin mai, elle se couchera peu après le début de la nuit, donc on pourra bientôt plus l'observer. Le matin, on remarque la très brillante Jupiter vers le sud. Elle est d'ailleurs visible pratiquement la moitié de la nuit, car se levant dès 1h du matin en ce moment, et ce sera vers 23h fin mai. Nous sommes entrés dans une période favorable à son observation, de préférence quand elle est assez haute dans le ciel vers le sud, et je rappelle à nos auditeurs qu'avec une simple paire de jumelles, si possible en prenant appui pour ne pas trop bouger, on peut voir jusqu'à 4 de ces satellites visibles comme des petites étoiles plus ou moins alignées autour de la planète et dont les positions varient en quelques dizaines de minutes. Ce sont les 4 satellites galiléens, car découverts en 1609 par Galilée avec sa petite lunette, Io, Europe, Ganymède et Callisto. En cette fin avril, on peut encore apercevoir Vénus se lever dans les lueurs de l'aube, très peu de temps avant le soleil, mais comme elle continue à se rapprocher progressivement de lui dans le ciel, on ne la verra bientôt plus, jusqu'à son retour dans le ciel du soir dans quelques semaines. Il en va de même pour Mercure. À l'est de Jupiter, on peut voir Saturne, qui est nettement moins lumineuse, mais d'une couleur jaunâtre. Elle se lève actuellement vers 3h du matin, et ce sera 1h fin mai, où ses conditions d'observation seront meilleures, mais malheureusement, on ne peut pas voir ces magnifiques anneaux dans une simple paire de jumelles. Il faut un petit instrument d'astronomie pour les admirer. Comme chaque mois, la Lune et les planètes produiront quelques conjonctions, comme demain et vendredi matin, où elle se rapproche de Saturne, gibbeuse demain et à l'ouest de la planète, c'est-à-dire à droite, presque au dernier quartier vendredi et à l'est de Saturne, c'est-à-dire à gauche. Puis il faudra patienter jusqu'au 7 mai pour voir un fin croissant juste sous Mars, puis jusqu'au 21 mai pour voir le matin la grosse lune gibbeuse presque pleine près de Jupiter et 2 jours plus tard, le jeudi 23, un peu moins grosse près de Saturne. Pour l'anecdote, un autre phénomène, mais qui ne peut intéresser que nos auditeurs qui auraient l'occasion de se déplacer à Paris début mai, c'est autour du 8 mai qu'on peut voir le soleil se coucher pile dans l'axe des Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe. Ça fait souvent de jolies photos. Et pour ceux qui sont fidèles à nos chroniques astro, la prochaine devrait être en principe diffusée le mercredi 29 mai. S'il n'y a pas de changement, dernier mercredi du mois.
Comme d'habitude, Michel, c'est avec plaisir qu'on se retrouve donc le dernier mercredi du mois. Et la prochaine chronique, ça sera la numéro 55. Un thème déjà prédéfini ?
Ah non, parce que je m'inspire un peu de l'actualité du mois, donc je ne sais pas encore ce qui va se produire, on ne sait jamais. Un bolide qui viendrait tomber sur Terre, ou
on espère pas, quand même.
Une supernova qui exploserait dans le ciel, j'en ai parlé tout à l'heure. En tant qu'astronome amateur, moi je suis toujours intrigué par l'idée qu'il pourrait un jour, alors qu'on est avec nos petits télescopes sous une nuit noire, apparaître sous un coup dans le ciel un truc très 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 lumineux, parce qu'une supernova viendrait d'exploser. Ça ne prévient pas, ça peut arriver... du jour au lendemain, comme en 1054, par exemple, le 4 juillet, une supernova qui a été visible pendant 3 semaines en plein jour. Donc c'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Mais ça ne prévient pas. Comme les comètes, de temps en temps, il y a une comète qui apparaît plus lumineuse que ce qu'on pouvait attendre dans le ciel et qui peut parfois être visible à l'œil nu. Donc on ne peut pas savoir un mois à l'avance ce que le mois de mai, par exemple, va nous réserver dans le ciel.
À partir du moment où ce n'est pas dangereux, ça peut être sympa, effectivement. Ouais.
Les supernovas, ça peut être relativement dangereux, parce qu'il y a des dégagements de rayonnement haute énergie. Donc, il vaudrait mieux qu'elles ne soient pas trop près de la Terre. Ça pourrait être embêtant pour la vie à sa surface.
Bon, alors, très bien. Donc, ce sera la surprise pour la numéro 55. Ce sera peut-être quelque chose d'exceptionnel, une chronique exceptionnelle. En tout cas, à ne pas rater le dernier mercredi du mois. Vous avez dit la date exacte. Ça sera le mercredi.
Le 29, il me
29
semble.
Mai. D'accord. Je vous fais confiance, Michel. Et on rappelle qu'on retrouve toutes ces informations, et notamment le ciel du mois, et en visuel, cette fois-ci, sur votre site constellationsdesgalaxies.org avec les 3 W devant, bien sûr. Une page Facebook, Michel ?
Oui, mais elle est là que pour faire une petite présence. Par contre, il y a une page Facebook, Michel Favret, pour ceux qui seraient intéressés par mes autres activités, en particulier les photos. Je fais beaucoup de photos. Et pour la petite histoire, il se trouve que j'étais à Paris lundi dernier et que j'ai presque pu voir l'incendie de Notre-Dame.
Et
j'ai mis quelques photos sur Internet parce que le lendemain, je suis allé voir un petit peu dans quel état elle était. Il y avait une foule considérable sur les quais, dans une ambiance très bizarre, de silence, comme une espèce de deuil. C'était assez impressionnant.
Donc Michel Favret sur Facebook, on rappelle aussi au Code Radio un Facebook, on retrouvera d'ailleurs Michel Favret en photo pour cette chronique, ainsi que les informations sur le site Constellations et Galaxies, puis vous retrouvez bien sûr d'autres informations, on est même sur Instagram, Michel, vous qui aimez la photo, c'est vrai que c'est un bon réseau social pour mettre des photos, nous on n'y est pas encore ultra dynamique, ça demande du temps bien sûr, vous nous comprendrez bien, mais on s'y est mis, voilà, merci Michel.